France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il n'y a plus de manifestations dans les rues de Téhéran et d'ailleurs. Le chef de la police a lancé un ultimatum aujourd'hui à ceux qu'il appelle les émeutiers. Il leur demande de se rendre. Elle semble finie, cette révolte, dans le sang, c'est sûr. A-t-elle été vaine? C'est ce que nous verrons avec notre invité dans moins d'une minute. Le réveil européen après les menaces de Trump sur le Groenland, est-ce qu'on y ajoute un point d'interrogation? On demandera à Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. Le reportage ce soir est au Japon. Le procès de l'assassin de Shinzo Abe est fini. On attend la sentence, est-ce qu'on a mieux compris qui était cet homme qui a tué l'ancien Premier ministre?
J'aurais aimé que les protagonistes creusent plus profondément les raisons qui expliquent un tel geste. C'est un procès qui reste au milieu du guet.
Karine Nishimura nous racontera tout ça autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audet a trouvé la Chine qui enregistre les taux de natalité les plus bas de son histoire. Et puis dans la BO du monde, Cyril Sauvageau nous emmène dans le sud de l'Algérie avec un groupe Touareg qui n'a pas peur des instruments électroniques. Le monde est vaste et on n'a pas une heure, allons-y.
Ils utilisaient des armes lourdes pour tuer des gens ordinaires. Et ils tuaient aussi ceux qui s'enfuyaient pour se cacher. C'est terrible. Tout le monde est déprimé, anxieux, très triste. Et nous sommes dans cette situation depuis près de 47 ans.
C'est Marie-Pierre Véraud en Turquie qui a recueilli le témoignage de cette Iranienne qui venait de sortir du pays. Bonsoir Armin Arefi.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Point, vous êtes spécialiste de l'Iran et de sa région. Est-ce que c'est fini? Alors, est-ce que la révolte 2026 est tout fait dans le sang? C'est fini.
Alors, il est trop tôt pour dire si la révolte est terminée, mais en tout cas, il n'y a plus de manifestations de masse, c'est clair, et ceci depuis bientôt une semaine. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce week-end, on a peu à peu, certaines communications se sont rouvertes, et donc on a pu, quand j'ai pu communiquer avec des manifestants, des membres de ma famille, et en fait, c'est un peu le jour d'après, en Iran, tout le monde est sous le choc. Ils n'avaient pas toutes les informations sur l'étendue de la répression, néanmoins, aujourd'hui, de plus en plus d'Iraniens se rendent compte, en fait, des massacres qui ont eu lieu, qui ont fait des milliers de victimes. Les derniers chiffres, en tout cas ce week-end, cités par le Sunday Times, parlent de 16 500 morts en se basant sur des rapports de médecins. Donc un effroyable carnage, comme jamais il n'y avait eu de carnage de ce type depuis l'avènement de la République islamique, mais une colère qui est toujours énorme et qui, je le rappelle, avait au départ des fondements économiques. Or, la situation économique est loin d'être réglée.
Même ceux qui connaissent bien l'Iran comme vous sont presque étonnés et terriblement choqués, évidemment, mais par la violence de la répression. Quand on tue 16 000 personnes, et quand bien même ce serait moins quand on a les chiffres, quand on tue des milliers, de toute façon, de personnes de son propre peuple, c'est une violence qui montre un régime aux abois. Pour vous, ça, Armin Arefi, ou pas?
Je suis pas si étonné que ça, en ce qui me concerne, parce que depuis maintenant 17 ans, à chaque fois que les Iraniens sont descendus dans la rue, que ce soit contre l'ancien président ultra-conservateur Ahmadinejad en 2009, contre la vie chère en 2018, puis à nouveau en 2019, au moment du mouvement Femmes Vie Liberté en 2022, à chaque fois la répression a été sanglante. Il faut pas oublier qu'en 2019, déjà, le régime avait complètement fermé le pays et bloqué Internet, et en une semaine, 1500 personnes avaient péri. Cette fois, c'est visiblement des milliers de personnes, donc bien plus en deux jours, notamment lors du week-end sanglant entamé en Iran le jeudi 8 janvier, qui s'est achevé environ le samedi soir, où des milliers de personnes ont été tuées. Et pour quelle raison? Parce que le régime, effectivement, a pris peur peur parce qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans la rue. On parle de 1 million et demi de personnes à travers le pays en une seule soirée. Et d'ailleurs, il faut quand même souligner que ce jeudi 8 janvier, le fait qu'autant de personnes soient sorties dans la rue répondait à un appel lancé un jour plus tôt par le fils du Shah, Reza Pahlavi. Et c'est la première fois en 47 ans de République islamique, qu'un opposant basé à l'étranger paraissait, en tout cas, influer sur le cours des événements en Iran.
Je ne sais pas si vous l'avez lu vous aussi, Shirin Ehmadi, l'avocate prix Nobel de la paix, dit que, justement, c'est ça qui a fait peur au guide cette fois. Ce n'est pas tant le nom, c'est qu'un nom ait été scandé. Donc ça veut dire qu'une alternative a été scandée, et ça les a terrorisés. Est-ce que vous partagez ça?
Alors c'est en effet la première fois, et c'est ce que me disaient des manifestants sur place, pro-Reza Pahlavi, qui me disaient, alors déjà on n'est pas forcément pour la personne, mais c'est ce qu'il représente, ce que représentait son père, une dynastie prestigieuse, moderne, pas idéologique, C'est oublier, bien sûr, tout son caractère dictatorial qui a quand même abouti à la chute du Shah. Mais c'est la première fois, surtout, que effectivement les Iraniens ne se prononçaient plus, ne lançaient plus de slogans contre une personne, à savoir le guide suprême, mais également pour une personne, Reza Pahlavi. Maintenant, c'est oublier cette lecture qu'a faite Shirin Ebadi, que dès, en fait, cinq jours après le début des manifestations, le guide suprême a annoncé la couleur, à savoir qu'il a distingué les revendications légitimes des commerçants du bazar qui faisaient grève, et les manifestations politiques, il a appelé des fauteurs de troubles, des vandales, et à qui il a déjà promis, en tout cas demandé aux responsables du pays, de ramasser. Il a dit, il faut les ramasser. Ce qui veut dire, dans le langage de l'ayatollah Khamenei, qu'il faut les tuer.
Et c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, Hermine Arefi, parce que en effet, ça commence étonnamment d'ailleurs hein, par les commerçants du bazar ont raison à certains égards. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et là, maintenant que c'est fini, en tout cas que les gens ne manifestent plus, qu'ils sont chez eux, et on peut comprendre pourquoi. À aucun moment, même, il n'y a eu quoi que ce soit de la part du guide suprême disant, je me souviens comment ça a commencé. Alors, il le dirait pas comme ça, mais économiquement, on peut peut-être avancer sur quelque chose. Rien. Donc du coup, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Est-ce que ce moment de janvier 2026 va s'additionner aux autres? Vous les avez cités, 2009, 2017, 2019, 2022. Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que non, celui-là, ces gens ne sont pas morts pour rien?
Alors, je pense que de toute façon, toute expression dans la rue, toute manifestation en Iran n'est jamais pour rien. C'est de fait l'expression justement d'un ras-le-bol, un ras-le-bol tout d'abord économique, puis ensuite politique. Alors, j'apporterai quand même une nuance. Effectivement, dans la bouche du guide suprême, notamment cette dernière semaine, que ce soit son intervention avant-hier ou celle il y a une semaine, il y a eu donc cette distinction entre les revendications légitimes des bazaristes, c'est-à-dire les commerçants, poumons économiques du pays, alliés traditionnels de la République islamique, et les fauteurs de troupes. Néanmoins, depuis, il ne faut pas l'oublier non plus, depuis au lendemain des premières manifestations le 28 décembre dernier, le gouvernement, donc le modéré, si l'on peut parler de modérer Massoud Pezeshkian, a démis de ses fonctions le gouverneur de la Banque Centrale, a nommé une nouvelle personne, M. Emmati, a supprimé le taux officiel du dollar qui permettait justement à des importateurs liés au régime d'importer des produits de première nécessité à des prix subventionnés. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Le problème, c'est que, et ça aussi il faut le rappeler, l'Iran est sous sanction, ce régime est sous sanction, sous sanction internationale, notamment en raison de son programme nucléaire. Par ailleurs, pour un accord qui, en tout cas à l'époque, lorsqu'il a été conclu, l'Iran respectait. Et c'est le rétablissement des sanctions de l'ONU, d'ailleurs sous l'égide de la France, en octobre dernier, ce qu'on appelait le snap back, qui a favorisé la dépréciation, la dégringolade même de la monnaie nationale, le touman, par rapport au dollar, et qui a favorisé le mécontentement des bazaris. Le problème étant que plus l'Occident, et notamment Donald Trump, font pression au niveau économique sur la République islamique, plus le peuple en veut au Mollah. Et c'est très intéressant. C'est 47 ans d'addition de revendications non entendues, qu'elles soient politiques ou sociales, qui fait qu'aujourd'hui, les Iraniens en veulent avant tout au régime.
Vous y avez cru, vous, à une intervention potentielle des Américains, visant probablement le guide suprême? Et est-ce que les Iraniens y ont cru aussi, en se disant, il faut tenir le coup, les Américains vont finir par faire quelque chose ou pas?
Force est de constater, une semaine après la capture rocambolesque de Nicolas Maduro, on ne sait pas à quoi s'attendre avec Donald Trump. D'ailleurs, même si aujourd'hui il a l'air de s'entendre avec les responsables de la République islamique sur la chorégraphie, le scénario de 800 exécutions qui auraient été suspendues, un chiffre que personne n'a pu vérifier et que personne ne confirme, on n'est pas encore, on pourrait assister à une intervention militaire.
Est-ce qu'on y a cru ou pas? Est-ce que les Iraniens y ont cru?
Maintenant, ce que je peux vous dire, d'un point de vue en tout cas iranien, de la part des manifestants que j'ai pu avoir. Alors, les gens étaient partagés. Certains, justement, priaient pour qu'il n'y ait pas d'intervention, en tout cas de soutien public, que ce soit de la part des États-Unis ou d'Israël, ce qui a été fait, en tout cas en termes de soutien public, parce que ça ferait le jeu des autorités. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que c'est au nom de la collaboration avec le Mossad et la CIA qu'ils sont, pour certains d'entre eux, condamnés à mort, car il s'agit de condamnation à mort. Mohalebe, guerre contre Dieu, ça équivaut à la condamnation à mort. Et d'autres manifestants qui appelait à une intervention étrangère, et pour une simple et unique raison, qu'ils se sentent complètement seuls, abandonnés depuis 47 ans par la communauté internationale, qui d'après eux n'a jamais pris le parti des Iraniens. Donc quand ils voient un président américain qui, pour la première fois, prend en tout cas publiquement le parti des Iraniens et leur annonce que l'aide est en route, forcément ils y croient, et forcément ils y croient même très fort. Le problème, c'est qu'une nouvelle fois, ils ont été déçus.
Et c'est vrai aussi que quand on regarde la séquence, on a effectivement Trump, comme d'habitude, qui pense qu'il peut faire comme il le dit lui-même, je ne sais plus comment il disait, pour Caracas, tac tac boum boum, enfin vraiment c'est comme ça qu'il parle ce président, et faire la même chose. Il se rend compte très vite que c'est compliqué, et puis il y a probablement un coup de fil de Netanyahou qui lui dit attends, c'est compliqué parce qu'on risque d'être aussi nous dans les représailles, et puis les pays du Golfe disent la même chose, et puis attention aussi à vos bases. Ça veut dire qu'ils en ont sous le pied de ce point de vue-là les mollahs finalement, Armin Arafi. Ils ont des arguments, et j'y mets des guillemets, pour que de toute façon une intervention de ce genre ne soit jamais faite.
Alors, effectivement, vous avez raison. Alors, c'est l'ensemble des pays de la région, qu'il s'agisse de la Turquie, d'Israël et de l'ensemble des pays arabes du Golfe, qui se sont prononcés contre cette intervention parce qu'ils savent qu'ils sont en première ligne en cas de représailles iraniennes.
Ça veut dire que l'Iran fait quand même encore peur, en fait,
bien
à ses
évidemment,
voisins.
L'Iran, même affaibli, fait peur. Par ailleurs, il ne faut pas oublier quand même une certaine chose. Le régime, certes, il a vu un nombre sans précédent de manifestants dans la rue, mais il n'a jamais été au bord de l'effondrement, bonnement, parce que l'essentiel des forces armées, les forces armées possèdent la totalité justement de l'arsenal répressif qui est intact, et il n'y a eu aucune dissension. Et ça, il faut envoyer, enfin, il faut mettre fin, je pense, à cette idée reçue que la population puisse, comme ça, avec les mains nues, aller renverser un régime, alors qu'encore une fois, les gardiens de la révolution, les miliciens Basidji, la police anti-émeute, tous ont soutenu le guide suprême et ont appliqué les ordres du guide suprême.
Et peut-être Armin Arafi tord le cou à une autre idée reçue qui est de dire, parce qu'on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, mais les gardiens de la révolution peuvent aussi basculer dans l'autre sens ou peuvent se diviser. On n'a rien vu de ça. Absolument rien.
On n'a rien vu de ça, on n'a pas vu de défection. Maintenant, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que force est de constater que le risque premier pour le régime et le seul scénario qui pourrait intervenir sur le court terme, ce serait justement une scission au sein des forces de sécurité. Quand on regarde tous les bouleversements qui ont eu lieu dans la région, à chaque fois, c'est une force armée sur le terrain, qu'il s'agisse de rébellion ou de l'armée, le fait qu'elle se prononce en faveur du peuple, qui a mené au renversement, que ce soit de Bachar el-Assad, de Ben Ali en Tunisie ou de Moubarak en Égypte. Et c'est ce qui pourrait faire vaciller ou même renverser le régime. Le problème, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit, c'est que pour l'instant, il n'y a rien de tel, ni au niveau de l'armée, encore moins au niveau des gardiens de la Révolution, la véritable armée idéologique du régime.
Est-ce que ça veut dire, et ce serait la dernière question, Armin Arafi, que si demain, il y avait une frappe de Trump et qu'elle était très ciblée sur le guide, je vous entends, ça veut dire que de toute façon, ça ne suffirait pas, en fait, pour que l'Iran change du tout au tout.
Alors, une intervention militaire au sol, pour l'instant, c'est hors de question, ça serait une possibilité. L'élimination du guide pourrait changer la donne, parce qu'on sait que le guide est la clé de voûte du régime. Donald Trump, en tout cas au sein de son administration, il y a une volonté de négocier, mais si ce n'est pas possible, justement, de pousser des éléments au sein du régime, qui ont en dessous d'eux des forces armées sous leur commandement, à rompre avec l'ayatollah Khamenei. Ce pourrait être justement la solution. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'en voit pas le début du chemin.
Armin Arafi, on en reparlera de l'Iran et avec vous, avec grand plaisir, j'espère très vite dans un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Merci de
votre passage chez nous. La suite, c'est Le Monde à l'endroit et c'est vous, Louise Baudet.
L'Europe tentait de se rebiffer face à Trump qui menace sa souveraineté, mais en a-t-elle les moyens et la volonté?
Et ça se passe juste après ça. Whiteleg et Davina McCall sur France Inter. Pour la petite histoire, il paraît que Davina McCall, c'était une présentatrice de télé qui rencontrait des célibataires en quête d'amour. Eh ben écoutez, enquête d'amour.
Vous êtes intéressé par ce programme?
Non, mais justement, j'allais dire, Louise, qu'enquête d'amour, l'Europe l'est aussi. On ne peut pas dire qu'elle le trouve avec les États-Unis. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'appelle Le Monde à l'endroit.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Et donc, Louise, face au nouvel impérialisme américain, l'Europe est à un tournant.
Et oui, on pourrait appeler ça la tentation muselier, du nom de cet épisode exhumé récemment dans la revue Le Grand Continent. Rien à voir, je vous rassure, avec l'actuel président de la région PACA, Renaud Muselier. On parle de son grand-père, l'amiral Muselier, hiver 41, Saint-Pierre-et-Miquelon, île française aux portes des côtes canadiennes. Les États-Unis veulent l'annexer pour sécuriser l'Atlantique Nord. Mais depuis Londres, De Gaulle refuse tout net et envoie illico une petite flottille de forces françaises libres dirigée par l'amiral Muselier. Mission, planter le drapeau et réaffirmer la souveraineté française sur ce territoire. 85 ans plus tard, l'épisode plaît beaucoup aux diplomates français qui tirent deux leçons de ce moment gaullien. La souveraineté est une ligne rouge et on peut dépendre militairement d'un allié sans tout lui céder. Inspirant à l'heure où Donald Trump piétine l'alliance transatlantique, même si la comparaison historique a ses limites, le Groenland n'est pas Saint-Pierre-et-Miquelon et Trump n'est pas Roosevelt.
Alors on y est là, Louise, l'heure du réveil européen a sonné.
En tout cas, la prudence qui prévalait encore il y a trois jours n'est plus de mise et la France se sent un peu moins seule depuis que Donald Trump a de nouveau brandi l'arme des droits de douane contre les pays qui ont envoyé une poignée de soldats au Groenland. Les Allemands dénoncent un chantage, les Britanniques sortent de leur réserve, même l'italienne et très trumpiste Giorgia Meloni parle d'erreur, un signe. Tout le monde tient conseil, à Paris, à Bruxelles, au sein du G7, entre dirigeants européens jeudi prochain. Ménager l'ego de Donald Trump n'est plus, semble-t-il, la priorité. Et si la crainte demeure de se retrouver seul face à la Russie, elle ne justifie plus automatiquement de se coucher.
Et alors, les Européens ont-ils de quoi se défendre?
Alors, ils peuvent d'abord geler l'accord douanier conclu l'été dernier sur le terrain de golf écossais de Donald Trump. Rappelez-vous, accord dénoncé alors comme déséquilibré. Les parlementaires européens ont prévenu, pas question de ratifier le texte en l'état. Autre levier, les contre-mesures prévues à l'époque en cas d'échec des négociations, soit 93 milliards d'euros de marchandises américaines prêtes à être surtaxées. Et puis il y a ce fameux instrument anti-coercition, outil puissant adopté il y a deux ans, pensé initialement pour contrer la Chine et jamais utilisé. Il permet de geler l'accès au marché public européen ou de bloquer certains investissements. Bazooka commercial redouté des GAFAM qui réalisent un quart de leur chiffre d'affaires sur le marché européen.
Et ce bazooka, les Européens sont prêts à l'utiliser, comme le demande Emmanuel Macron?
C'est là que ça se complique. Entendre ce matin sur Inter le commissaire européen Stéphane Séjourné, l'instrument anti-coercition, le fameux bazooka, est un outil de dissuasion. Or, le propre de l'arme nucléaire, c'est justement de ne jamais être utilisé. Les lignes bougent, oui, mais le rapport de force avec Washington est encore loin d'être assumé. Au sein d'un club européen dont les membres n'ont pas les mêmes intérêts économiques et sécuritaires, ni la même distance idéologique vis-à-vis de l'Amérique trumpiste. Résultat, la Commission européenne prône le dialogue plutôt que l'escalade. L'esprit de dialogue, c'est aussi le thème retenu cette année au forum de Davos en Suisse, où débarquera en force le président américain après-demain. Peu de chance que ce programme soit respecté.
Louise Baudet, merci beaucoup et à demain, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour au Japon ce soir et la voix que vous entendez, c'est celle de Shinzo Abe, assassiné en juillet 2022 en pleine campagne électorale, la fin du procès de son assassin. Et toute proche, la sentence sera dévoilée dans quelques jours, ce sera le 21 janvier, c'est mercredi, après-demain. Shinzo Abe n'était déjà plus Premier ministre, mais son assassinat a évidemment sidéré le Japon, le procès du tireur. Tetsuya Yamagami s'est tenu de manière très singulière à Nara, à quelques kilomètres de Tokyo, et le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte.
C'est un procès historique, un grand procès, parce qu'il juge l'assassin d'un ex-premier ministre. Mais paradoxalement, il se tient dans une petite salle de la ville de Nara, avec un public limité à 32 personnes et autant de journalistes. Kumi a participé plusieurs fois au tirage au sort pour tenter d'y assister, en vain.
Cela s'est passé dans ma ville et je veux connaître la vérité. Jusqu'à présent, les informations dont je dispose sont celles
qui ont été données par différents médias. Mais je pense que mon jugement est influencé, donc j'aurais voulu écouter directement la parole des protagonistes.
Chaque audience débute de la même façon. Tetsuya Yamagami entre dans la salle, menottes au poignet, reliées à une corde qui lui entoure la taille et que tient un policier. Ils sont 5 officiers à l'encadrer en permanence. Il a fallu plus de 3 ans pour que s'ouvre ce procès. Eito Suzuki, essayiste, le suit depuis le début.
Le premier jour, quand il est entré dans la salle, c'était un homme qui donnait une impression totalement différente d'il y a 3 ans. Mais en réalité, il a abordé ce procès très sérieusement, il a répondu très franchement qu'il n'avait pas une attitude détachée.
Tetsuya Yamagami, avec ses roues flaquettes fournies et ses cheveux longs noués en chignon raté, a gardé durant les 15 audiences passées le même visage fermé et impassible.
Il n'a quasiment pas changé d'expression, mais il a quand même semblé ressentir quelque chose, être ému lors du témoignage de sa sœur.
Cette dernière a expliqué à quel point leur adolescence avait été saccagée par la dévotion de leur mère envers la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, souvent appelée secte Moon. La mère a reconnu à la barre être encore une fidèle de cette secte. Yamagami, qui répond d'une voix rauque mais s'exprime clairement, explique s'être mise en tête il y a bien des années d'attirer l'attention de la société sur les méfaits de la secte Moon qu'il rend responsable de sa propre déchéance. Il a initialement envisagé de tuer un des hauts responsables de l'organisation né en Corée du Sud. Il a consacré des mois à fabriquer plusieurs armes à feu d'une puissance létale exceptionnelle, selon les experts. Il a finalement décidé, quelques jours avant de passer à l'acte, de tuer Shinzo Abe, dont les liens avec la secte lui sont apparus de plus en plus clairs. Eito Suzuki.
Au départ, vis-à-vis d'Abe, il était troublé de constater ses liens et déçu, mais cela s'est progressivement transformé en aversion puis en hostilité. Il a fini par éprouver de la haine envers l'homme politique Shinzo Abe lui-même. C'est ce cheminement qui est peu à peu apparu clairement durant le procès, et cela était assez nouveau.
Pourtant, pour Hirofumi Yanai, juriste et essayiste, le geste de Yamagami reste difficilement compréhensible.
Même avec un contexte familial tel qu'il l'a décrit, est-ce que cela justifie un assassinat? Bien sûr que non. Les avocats ne disent pas le contraire. Par conséquent, j'aurais aimé que les protagonistes creusent plus profondément les raisons qui expliquent un tel geste. De ce point de vue, c'est un procès qui reste au milieu du guet.
Le parquet a requis la prison à vie et non la peine de mort, qui était une possibilité redoutée par les avocats. 3 magistrats professionnels et 6 jurés populaires sont chargés d'écrire le verdict.
Karine Nishimura pour le reportage. La suite ce soir dans le 18-20, ça se passe d'abord sous les radars avec vous, Guillaume Audin.
Sous les radars à Washington, où démocrates et républicains se sont entendus contre Trump pour sauver le budget d'eux. Eh bien, je vous le dirai tout à l'heure.
Allez, la BO du monde qui a suspense, comme chaque lundi, Cyril Sauvageau.
Et ce soir dans le désert du sud algérien avec les Touaregs d'Imaran.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète se poursuit en passant par la voie, par la Californie et la voie rocailleuse de Tom Waits. Alice, ça date de 2002 et c'est le choix de Djoubaka ce soir.
It's dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw and the tears on my face. And the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic. Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How does find my throat. The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there. Then I must be insane to go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the ice.
Tous hypnotisés par Tom Waits dans le studio sur France Inter et dans Un jour dans le monde. C'était Alice, ça date de 2002, figurez-vous. Il se hisse chaque soir de sous les radars et c'est Guillaume Audin.
C'est
un micro-trottoir à Pékin qu'on entend là. Pourquoi pensez-vous que les jeunes Chinois font moins d'enfants ? Eh bien, sans doute parce qu'ils se sentent libres, c'est ce que répond cette jeune femme, et qu'un enfant, c'est une contrainte.
Une existence sans contrainte, à part évidemment le fait de gérer sa propre vie, sa carrière, son mariage ou pas d'ailleurs, car on se marie beaucoup moins en Chine qu'auparavant. Et cet individualisme, c'est l'un des ressorts de la baisse drastique de la natalité dans le pays. Elle est à son plus bas niveau historique. Pékin s'apprête à traverser ce que les spécialistes appellent un hiver démographique. Les générations ne se renouvellent plus. La Chine pourrait perdre jusqu'à la moitié de sa population d'ici à la fin du siècle, soit passée de 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui à 7 ou 800 millions en 2100, avec des conséquences économiques considérable parce que mécaniquement, le marché intérieur cessera d'être un levier de croissance en termes de force de travail et de consommation. Si au-delà de nous inquiéter, la Chine se met en plus à tousser, c'est le monde entier qui finira par s'enrhumer.
Breaking news now, there's just been a third shark attack in Sydney, the third in two days.
Ah ben bravo, voilà, on peut pas être plus clair. L'Australie, troisième attaque de requins en deux jours et c'est tout le pays qui tremble.
Oui, parce qu'on est en été là-bas, on est en pleine grande vacances et que tout ce que compte la jeunesse australienne de surfeurs en herbe est évidemment dans l'eau et sur les vagues. La dernière victime est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il a été attaqué ce lundi, puis extrait inconscient des eaux. Il lutte pour sa survie au moment où on se parle. Hier, c'est un garçonnet de 12 ans qui a été grièvement blessé avant que quelques heures plus tard, un autre requin ne dévore la planche d'un petit de 11 ans. Il a eu la frayeur de sa vie. Alors d'après la taille et la forme des morsures sur sa planche, il s'agirait d'un requin bulldog. Environ 3 mètres pour 300 kilos, une mâchoire conçue pour broyer. Avec le requin blanc et le requin tigre, le bulldog est l'un des plus dangereux pour l'homme. Alors il a beaucoup plu ces derniers temps. Une grande quantité d'eau douce s'est déversée le long des rivages. Par ailleurs, la mer est trouble. Autant de facteurs de risque qui expliquent ces attaques de requins, répétition à Sydney où l'on nage, c'est le cas de le dire, dans la psychose.
That would have devastated NASA science by 47%.
Et ça, c'est un sénateur démocrate du Maryland, Guillaume. Il fustige la baisse du budget de la NASA proposée par la Maison-Blanche. Et il a pu constater sur les républicains pour s'opposer à Trump, au moins sur ce dossier-là.
Fronde bipartisane au Congrès, où démocrates, en effet, et républicains n'avaient aucune intention de laisser passer un tel projet, une coupe drastique de 47% dans le secteur de la recherche scientifique. La NASA, au-delà des astronautes qu'elle place sur orbite, n'est pas qu'un simple opérateur technique. C'est une agence qui fait de l'exploration planétaire, Mars, Saturne, Jupiter, qui développe pour cela des instruments de pointe, des optiques, des télescopes. Mais au-delà de l'astrophysique, la NASA étudie également le climat, les océans, les catastrophes naturelles, et elle a besoin de beaucoup d'argent pour cela, environ 7 à 8 milliards de dollars sur un budget d'environ 25 milliards. Le Congrès a rejeté comme un seul homme le projet de Trump, qui attaque délibérément tout ce qui, de près ou de loin, inclut le mot science. Sauf que les sénateurs des deux bords ont raisonné en stratège et non pas en comptable. Pas question de se priver d'un tel avantage géopolitique, surtout en ce moment. Le texte doit tout de même être signé par le président pour devenir une loi.
Guillaume Audin, vous reviendrez demain, le lundi. C'est Cyril Sauvageau qui écoute la musique que fait la planète en tournant. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Dans dans le sud algérien ce soir, Cyril Tamandracet, capitale des Touaregs. C'est là, en plein désert du Sahara, que vivent les musiciens du monde, du groupe, pardon, Imaran.
Et c'est là aussi, désormais, qu'ils produisent leur musique, dans leur propre studio. Là où les groupes Touaregs ont longtemps dû s'exiler en Europe pour trouver les bonnes conditions d'enregistrement, eux peuvent laisser libre cours à leur inspiration, avec en arrière-plan le désert et les montagnes de la gare. Le quatrième album d'Imaran vient de paraître, il s'intitule Essam et il confirme une chose, ce groupe est bien l'un des tout meilleurs de la nouvelle génération Touareg. Plus de 30 ans après les pionniers de Tinariwen dont le blues du désert a fait le tour du monde, les musiciens d'Imaran incarnent en quelque sorte la relève du genre. Et même s'ils ont déjà beaucoup bourlingué à travers le monde, même si leur musique reste nomade par nature, Imaran reste très attaché à leur fief du sud de l'Algérie, Tamandracet, et à ce studio maison qui leur sert de QG. La preuve que Tamandracet est encore aujourd'hui le cœur battant de la musique Touareg, un endroit où il est possible de jouer et d'enregistrer, où la situation sécuritaire est moins précaire qu'ailleurs dans la région et surtout que dans le nord du Mali, autre bastion Touareg que beaucoup de musiciens ont dû se résoudre à quitter.
Alors, musicalement, ce nouveau disque marque aussi un nouveau jalon dans l'évolution de la musique Touareg, Cyril.
Oui, c'est une tendance que l'on observe depuis quelques années, un désir de faire évoluer le genre, de ne pas se cantonner à un langage musical déjà bien établi. Les vétérans de Tinariwen eux-mêmes cherchent à changer, peut-être sous l'influence de nombreux artistes anglo-saxons qu'ils ont eu l'occasion de côtoyer, les anciens de Led Zeppelin ou Jack White des White Stripes. Tinariwen en mode presque country folk sur leur dernier album Amatsu. À la Mauritanie. D'autres cherchent aussi à repousser les limites de cette musique, à inscrire la culture Touareg sur la scène internationale. Citons par exemple le guitariste nigérien Mdou Mokhtar, un fan absolu de Jimi Hendrix, qui n'hésite pas à monter très très fort le volume de sa guitare électrique. Avec leur nouvel album, les Algériens d'Imaran s'emparent à leur tour de cet héritage et ils le font avec l'aide d'un producteur-arrangeur français, Maxime Kozinets, un complice de longue date, venu à Tamandracet équipé de ses synthétiseurs pour ajouter quelques touches d'électro. Résultat, une musique contemplative, plus apaisée, même si le message politique reste bien présent, comme sur ce titre où le groupe rêve de faire tomber les frontières entre l'Algérie et le Mali.
تبتسم غار وارتيها الشكر واجي غيماني انفرقت واجي غيماني انفرقت
قرعان رينا للنوف ذي قرعان رينا للنوف ذي لا ترحنم كبيرا رتتر لا ترحنم كم كبيرا رتتر
très bien rester à Taman Rasset. Merci beaucoup Cyril Sauvageau, à la semaine prochaine. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Christelle Robière et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir un duo d'économistes pour parler d'économie.
Ben oui, on les écoute les vendredis matins, Dominique Seux et Thomas Porcher pour le débat éco. Ils en font un livre, plein de questions sur WhatsApp ou au standard. Magali, la croissance est-elle absolument nécessaire? Si oui, pour qui? Christophe, est-ce qu'aujourd'hui l'économie n'est pas juste l'art de compliquer les choses et de masquer le vrai dysfonctionnement économique? Christine, depuis La Rochelle, ancienne prof d'économie, je n'ai jamais compris pourquoi cette matière n'est toujours pas obligatoire dans tous les cursus des lycéens, alors qu'elle gouverne la vie quotidienne de tous les Français.
01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous. C'est le même chemin pour vos pouces par WhatsApp. A tout de suite.